Vous écoutez RFI, il est 18h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ouzoui.
Lundi 3 février, bonsoir à tous. C'est reparti pour une nouvelle semaine d'infos. On est ravis de vous retrouver dans la session soirée de RFI. Voici le programme des 3 heures à venir. Avec dans 10 minutes le décryptage, Véronique Rigolet, ça fait déjà 2 mois que le régime syrien est tombé et le chemin vers la démocratie s'avère difficile.
Oui, alors qu'Ahmad al-Sharri, l'ancien djihadiste devenu l'homme fort de la nouvelle Syrie, est désormais président par intérim, désigné par les factions armées qu'il dirigeait et balayant au passage la Constitution, le Parlement, et se donnant 4 ans avant d'organiser de nouvelles élections, une concentration des pouvoirs qui inquiète et laisse même crainte à certains une nouvelle dictature. On en parle ce soir avec David Rigoulet-Rose de l'Institut français d'analyse stratégique et l'ancien ambassadeur de France en Syrie, Michel Duclos.
A tout à l'heure, juste après, ce sera le débat du jour qui ce soir s'intéressera à la réponse judiciaire aux annonces de Donald Trump, le nouveau président américain qui ne cesse de signer des décrets depuis son investiture, mais beaucoup de ces décrets font l'objet de plaintes et de recours. La justice peut-elle contrer Donald Trump? Voilà la question que nous poserons. À quel point le président américain a-t-il les mains libres? Réponse dans 30 minutes. Dans une heure, ce sera le grand journal du soir et le dossier sera consacré au sommet informel des dirigeants européens ce lundi à Bruxelles. Évidemment, il sera question de Donald Trump. 18h30 TU Afrique Soir, la première édition. 19h10 temps universel, votre session reportage pendant 50 minutes. Accent d'Europe sera à Madrid. Madrid de plus en plus lieu de refuge pour les latinos. Enfin, le grand reportage en Syrie, en écho au décryptage, la difficile unification du pays. Voilà pour le programme, mais à 17h02, temps universel, c'est le journal de Gilles Moreau. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Et à la une, donc, ce sommet informel des 27 sur la défense et sur le commerce.
Oui, les dirigeants de l'Union européenne étaient initialement réunis à Bruxelles pour parler défense à l'heure où les États-Unis pourraient se désengager du vieux continent. Mais l'annonce de sanctions économiques contre la Chine et surtout contre le Mexique et le Canada a chamboulé l'ordre du jour, si bien qu'il a été beaucoup question de défense commerciale. Correspondance à Bruxelles de Pierre Benazé.
Les droits de douane à l'encontre de l'Europe, Donald Trump entend absolument en imposer, puisque les Européens sont, selon lui, de méchantes personnes qui n'achètent aux États-Unis ni voitures, ni hydrocarbures, ni produits agricoles. Pour le président français Emmanuel Macron, la réponse est simple.
Si nous étions attaqués sur des sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir.
Cet avis est partagé par beaucoup, car les droits de douane à l'encontre du Canada et du Mexique sont un réveil pour ceux qui refusaient de croire que Donald Trump passerait de la parole aux actes. Olaf Scholz, chancelier allemand.
En tant qu'espace économique fort, nous pouvons façonner nos propres activités et réagir aux politiques douanières par une politique douanière. C'est ce que nous devons faire et c'est ce que nous ferons. Mais nous devrions avoir pour perspective et pour objectif d'agir de manière à ce que cela débouche sur une coopération.
Les instruments sont prêts car la Commission européenne a préparé des mesures de rétorsion en recensant tous les secteurs où elle pourrait imposer d'éventuels droits de douane, des mesures miroirs. Reste à voir maintenant si ce discours de fermeté empêchera à lui seul Donald Trump de déclencher une guerre commerciale. Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Donald Trump a signé samedi dernier les décrets imposant des droits de douane supplémentaires de 25% au Canada et au Mexique, les principaux partenaires commerciaux des Américains. La surtaxe est de 10% sur les produits importés de Chine. En ce qui concerne le Mexique, il bénéficie d'un répit. Washington a décidé de suspendre pour 1 mois la surtaxe sur les importations mexicaines. Indication de la présidente Claudia Sheinbaum après une conversation avec son homologue Donald Trump. Donald Trump qui s'est aussi entretenu dans la journée avec le premier ministre canadien démissionnaire Justin Trudeau. Après le Panama, le secrétaire d'État est arrivé au Salvador. Marco Rubio, qui incarne l'Amérique d'abord, effectue une tournée régionale pour entériner des accords sur l'immigration. Les États-Unis veulent renvoyer les immigrés illégaux vers leur pays d'origine. Mais si le président salvadorien se présente comme un allié de l'administration américaine, il a quelques leviers pour peser dans la négociation. Explication de Carlota Morteo.
Lors du premier mandat de Donald Trump, le Salvador était devenu ce qu'on appelle un pays tiers sûr, c'est-à-dire un pays où les migrants, quelles que soient leurs origines, attendent pendant que les États-Unis étudient leur demande d'asile. 6 ans plus tard, ce type d'arrangement pourrait être remis au goût du jour, Marco Rubio souhaitant aussi non seulement que les membres du gang salvadorien MS-13 soient rapatriés vers les prisons salvadoriennes, mais que, en prime, San Salvador accepte les criminels du gang vénézuélien Tren de Aragua si Caracas venait à les refuser. Que demandera le président du Salvador en échange? Car si Nayib Bukele vante souvent sa proximité avec l'administration Trump et que le secrétaire d'État américain Marco Rubio a fait l'éloge de la guerre sans merci que le Salvador mène contre la criminalité, il reste qu'une pression migratoire accrue pourrait fortement déstabiliser ce pays pauvre où les prisons sont d'ores et déjà saturées. Le président Nayib Bukele a notamment une carte à jouer. Le Salvador, déjà irrigué par de nombreux investissements chinois, est actuellement en pourparlers avec Pékin en vue d'un accord de libre-échange pour s'ouvrir un peu plus aux produits asiatiques, bien plus compétitifs que les produits américains.
Carlota Morteo, le conflit qui fait rage dans l'est de la RDC fera l'objet samedi prochain d'un sommet régional en présence des présidents rwandais et congolais. Annonce du Kenya qui précise que la réunion aura lieu à Dar es Salaam, capitale économique de la Tanzanie. Elle se tiendra dans un contexte de fortes tensions entre Kinshasa et Kigali. Au Proche-Orient, tandis qu'une trêve est en vigueur dans la bande de Gaza, les violences redoublent en Cisjordanie occupée. De sources palestiniennes, 70 personnes ont été tuées par Israël depuis le début de l'année. Nombreuses victimes, notamment à Jénine, dans le nord du territoire, où une vaste opération militaire est en cours. En France, la semaine de tous les dangers a commencé pour François Bayrou. Le Premier ministre a engagé la responsabilité du gouvernement sur le vote du budget de l'État et sur celui du budget de la Sécurité sociale. Comme Michel Barnier, il y a quelques semaines, François Bayrou s'expose à un vote de censure au Parlement. À gauche, le Bureau national du Parti socialiste a décidé à la quasi-unanimité de s'abstenir de voter la censure. Reste à connaître la position du Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen, autre clé de la survie du gouvernement Bayrou. En Espagne, le début d'un procès très attendu et très médiatisé, celui de Luis Rubiales, ancien président de la Fédération espagnole de football. Il a été contraint à la démission après avoir embrassé sur la bouche, sans son consentement, une joueuse de la sélection. Procès suivi par notre correspondant à Madrid, François Musso.
J'ai compris que mon chef était en train de m'embrasser et cela ne doit pas arriver dans aucun domaine social ou de travail. Je me suis sentie peu respectée. À aucun moment je n'ai recherché cet acte. Je ne m'y attendais d'autant moins que je pense que c'est manquer de respect à ma personne.
Durant 2 heures, Jenny Hermoso a répondu aux questions de la défense. Elle n'a pas été respectée, dit-elle. Elle s'est sentie agressée. Et d'ajouter que ce baiser non consenti devant les caméras de télévision a sali, je cite, « un des plus beaux jours de sa vie ». La victoire de l'Espagne au Mondial de football le 20 août 2023. Mais la joueuse, dont le témoignage était très attendu, ne s'est pas limitée à critiquer ce baiser qui a provoqué sa surprise et le sentiment d'avoir été offensée. Elle a aussi dénoncé les gestes de coercition dont elle aurait été l'objet par Luis Rubiales et son entourage dans les heures et les jours qui ont suivi la finale à Sydney en Australie. D'après elle, celui qui était alors le président de la Fédération de football lui a plusieurs reprises intimé l'ordre de ne pas exprimer publiquement son malaise après le baiser non consenti. En ce début de procès, plusieurs coéquipières sont aussi appelées à comparaître. François Musso, Madrid, RFI.
Enfin, les Jeux Olympiques d'hiver 2030 en France, ce sera sans Martin Fourcade. Le champion de biathlon annonce qu'il renonce à devenir président du comité d'organisation des Jeux. Il ne sera pas aux Jeux d'hiver, ce que Tony Estanguet fut aux Jeux d'été à Paris. Olivier Pron.
Un renoncement qui fait l'effet d'une bombe. Le multiple champion olympique de biathlon ne souhaite plus devenir l'homme fort de ces Jeux d'hiver 2030 pour, je cite, ne pas sacrifier ses convictions. Martin Fourcade évoque des désaccords trop nombreux comme la gouvernance, la vision, l'ancrage territorial et il explique dans un courrier adressé aux parties concernées qu'il a donc pris la difficile décision de se retirer alors que la création du comité d'organisation patine depuis l'automne. Elle était d'ailleurs fixée à ce début de semaine mais avait déjà été repoussée au 18 février. Mon ambition ambition pour ces Jeux est claire. Ils doivent être en phase avec leur époque, pleinement conscients des enjeux écologiques et ancrés dans la réalité économique de notre pays. Explique enfin Fourcade, connu pour être extrêmement soucieux des questions d'environnement. Cette vision n'est pas partagée par tous les acteurs de ce dossier et je le regrette. Ce retrait est l'épilogue de mois de tension entre notamment Martin Fourcade, qui avait l'aval du mouvement sportif et de l'Élysée, et l'ex-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Un retrait qui laisse le champ libre a priori à un autre biathlète, Vincent Jay, moins charismatique que Fourcade, mais très impliqué depuis le début de ce dossier, des Jeux d'hiver 2030.
Olivier Pron, voilà, c'est la fin du journal, mais l'information continue sur RFI avec Décryptage. Très bonne journée.